Benvenuti alla 16ª edizione del Festival Filosofia dedicata alle arti. Siamo qui con Georges Vigarello che ci darà qualche anticipo sulla sua lezione. Donc, si vous pouvez nous donner quelques éléments.
Oui, alors c'est vrai que je parle en français, je suis désolé. Hein. Donc je m'excuse pour deux choses. D'une part, pour parler en français. Et d'autre part, je suis très sensible, mais je suis déjà venu l'an dernier, je suis très sensible à l'accueil que la ville de Modène réserve à des intervenants comme moi. Je tiens à le souligner et je tiens à insister.
Tengo prima di tutto a scusarmi di parlare in francese e a ringraziare per l'accoglienza ricevuta, l'accoglienza che la città di Modena offre ad ospiti come noi.
D'accord. Alors, je vais effectivement parler cet après-midi à Sassuolo sur la question du cosmétique.
Parlerò oggi pomeriggio a Sassuolo della questione della cosmetica.
J'avais travaillé sur cette question du cosmétique lorsque j'avais écrit il y a quelques années un livre que j'avais intitulé L'histoire de la beauté. Je pense qu'il est traduit en italien.
Avevo iniziato a lavorare su questo tema in un libro che si chiama La storia della bellezza.
Storia della bellezza.
Si è tradotto in italiano.
Oui, je crois que c'est traduit en italien. Voilà.
Comment?
Comment?
Quand vous dites le cosmétique, c'est, vous voulez qu'on traduise par l'art cosmétique?
Si vous voulez, oui. Si vous voulez, l'art cosmétique, oui. Oui, très bien. Alors. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette question, c'est d'une part le fait que l'exigence de beauté traverse les siècles, évidemment.
Ciò che mi interessa prima di tutto in questa domanda è che l'esigenza di bellezza attraversa i secoli, chiaramente.
Oui, ça traverse les siècles. Et en même temps, la tentation constante, c'est d'améliorer la beauté en recourant à l'artifice.
Attraversa i secoli e nella tentazione costante di migliorare la bellezza con gli artifici.
Alors simplement le problème dans les périodes éloignées de nous, je pense au Moyen Âge par exemple, le problème c'est
que il problema nei periodi lontani da noi come il Medioevo.
Il y a une opposition très forte, je ne dirais pas que de l'église, mais il y a une opposition très forte de la culture.
E che c'è un'opposizione molto forte, non dirò della chiesa, ma un'opposizione della cultura.
Selon laquelle il y a deux types de beauté.
Secondo la quale ci sono due tipi di bellezza.
Il y a une beauté que l'on pourrait appeler naturelle, celle qui nous est donnée par Dieu, et il y a une beauté artificielle, celle que nous pouvons créer avec nos techniques.
Una bellezza naturale, quella che ci viene data da Dio, e una bellezza artificiale, quella che possiamo creare con le nostre tecniche.
Donc cette tension, elle est très fortement au cœur des pratiques esthétiques du 15e siècle, voire même encore du 16e siècle.
Questa tensione è al centro delle pratiche cosmetiche, direi almeno a partire dal 15º secolo.
Je pense qu'elle traverse d'ailleurs cette contradiction, elle traverse en gros jusqu'au 19e siècle.
Questa contraddizione direi che si prolunga fino al 19º secolo.
Mais ce qu'on peut dire en revanche, c'est que à partir de la Renaissance,
in compenso a partire dal Rinascimento,
à partir de la Renaissance, en Italie d'ailleurs,
in Italia, tra
en France, en Angleterre, mais d'abord en Italie,
ma prima in Italia.
Parce que l'Italie c'est quand même le lieu du berceau, me semble-t-il, hein, de l'invention de l'esthétique et de l'esthétique occidentale.
Perché l'Italia direi è comunque la culla dell'invenzione estetica occidentale.
Donc on voit très bien, en Italie d'abord et dans d'autres pays ensuite, on voit très bien que commence à apparaître l'acceptation chez beaucoup du recours à la technique.
Vediamo come in Italia comincia ad apparire l'accettazione da parte di molti del ricorso alla tecnica.
Et on voit un grand nombre de traités qui sont des traités portant sur la beauté, l'ornement des dames, l'ornement du corps.
Si vedono numerosi trattati sulla bellezza come quello sull'ornamento delle dame e l'ornamento del portamento.
Oui, voilà. Et il y a beaucoup d'auteurs à la fois italiens, français, je pense à Firenzole, un texte magnifique.
Molti autori italiani, francesi, penso a Firenzole.
Firenzole, un texte magnifique de 1572 sur la beauté des dames.
Nel 1572, questo testo sulla bellezza delle dame.
Et dans ces textes, ce qui est très intéressant, c'est d'une part le fait que le visage est très présent.
E una cosa molto interessante in questi testi è che da un lato il volto è molto presente.
Un peu comme si on avait tendance, je crois, un peu comme si on avait tendance à regarder d'abord dans le corps le visage.
Un po' come se ci fosse tendenza a guardare prima nel corpo il volto.
Le reste étant couvert par l'habit, le costume. D'ailleurs, j'ai écrit récemment un livre sur l'histoire de la robe qui va sortir là en octobre
il,
à Paris.
Il reste coperto dal vestito, dagli abiti. Tra l'altro ho scritto un libro che uscirà in ottobre sull'abito.
Donc sur le corps, on a tendance à parler de l'habit.
Quindi quando si tratta del corpo si ha tendenza a parlare del vestito.
Alors que sur le visage, on a tendance au contraire à parler du teint, à parler des traits,
à parler de l'harmonie. Si ha tendenza a parlare dell'armonia, dei tratti, del colorito.
Et on voit très bien que dans ces textes, ce qui devient important, ce sont les recettes ou les secrets de beauté.
E si vede come in questi testi la cosa importante siano le ricette, i segreti di bellezza.
Qui consiste à recourir à un certain nombre de mélanges que les femmes font exactement comme elles font des plats à la cuisine, vous voyez.
Consistono nel ricorrere ad una serie di miscugli un po' come delle preparazioni di piatti.
Ce sont des mélanges d'épices.
Sono dei miscugli di spezie.
On met parfois aussi, c'est très curieux et c'est passionnant, on met aussi parfois du venin, parce qu'on considère que le venin bouilli permet au corps de se protéger, ce qui
si mette a volte
curieux.
Anche del veleno, è molto sorprendente, ma perché si considera che il veleno bollito possa aiutare il corpo a proteggersi.
Et à ce moment-là, je pense qu'il faut souligner au moins deux choses.
E credo che a questo punto si debbano sottolineare almeno due cose.
La première chose, c'est que la beauté féminine, elle doit absolument obéir à la blancheur.
La prima cosa è che la bellezza femminile deve innanzitutto obbedire alla bianchezza.
Elle doit obéir à la blancheur parce que la blancheur c'est le signe d'une certaine pureté morale à la limite.
Perché il bianco è un segno di una certa purezza morale.
Mais c'est aussi le signe d'une bonne santé.
Ma anche il segno di buona salute.
Les humeurs de l'intérieur du corps doivent être pures et elles doivent se voir à travers la blancheur du visage.
Gli umori all'interno del corpo devono essere puri e si devono vedere attraverso il bianco del volto.
Donc, le premier critère, c'est cette blancheur. Cette blancheur, on peut aussi la retrouver à travers une donnée sociale.
Il primo criterio è questo bianco che poi si può ritrovare anche attraverso degli elementi sociali.
Qui est lié au fait que la femme.
Legato all'elemento femminile.
Doit montrer qu'elle ne travaille pas.
La donna che deve mostrare che non lavora.
Qu'elle n'affronte pas le climat.
Che non affronta il clima, la durezza del clima.
Qu'elle n'affronte pas les choses du dehors.
Che non affronta le
comme l'homme.
Esterni come l'uomo.
C'est au contraire la personne du dedans, c'est la personne qui accueille, c'est la personne du décor.
E al contrario la persona dell'interno, la persona che accoglie, la persona dell'interno della casa.
Et de ce point de vue, il y a un texte absolument magnifique qui s'appelle le livre du courtisan.
E da questo punto di vista c'è un libro bellissimo che si chiama Il libro del cortigiano.
Qui date de 1528.
Del 1528.
De Baltasar Castiglione, qui est un italien.
Di Baldassarre Castiglione.
Et ce livre du courtisan montre très bien que d'un côté il y a la dame du palais, la donna del palazzo.
È un libro che mostra che da un lato c'è questa donna del palazzo.
Et d'un autre côté il y a l'homme.
E dall'altro l'uomo.
Le seigneur qui affronte l'extérieur, la guerre, les frimas, le travail.
Che affronta l'esterno, la guerra, il clima, il lavoro.
Et la donna del palazzo, c'est la dame de l'intérieur.
La donna del palazzo, la donna dell'interno.
C'est la dame de l'intérieur, c'est la dame du décor.
È la donna della scenografia, in qualche
c'est
modo.
La dame d'une beauté qui n'est absolument pas touchée par l'extérieur.
Di una bellezza che non è toccata dall'esterno.
Oui, la différence aussi, c'est, par exemple, la dame du palais, ça n'a rien à voir avec la paysanne, par exemple.
La donna del palazzo, ovviamente, non ha niente a che vedere con la donna, con la contadina.
Donc ça c'est le premier critère, c'est le blanc. Je disais qu'il y a deux critères, c'est le blanc.
Ci sono due criteri, dicevo, questo è il primo, il bianco.
Et il y a un deuxième critère qui est celui qui est très compliqué, difficile à acquérir, qui est celui du brillant.
Il secondo criterio, molto complesso, difficile da acquisire, è quello della brillantezza.
Il faut que le visage soit brillant, il faut qu'il soit en quelque sorte un lieu où émanent des rayons.
Il volto deve essere brillante, deve essere un luogo da cui partano dei raggi.
Comme une lumière, vous voyez.
Come una luce.
Avec l'idée selon laquelle la beauté, elle doit être porteuse de lueur.
Con l'idea che il volto deve essere portatore di luce.
Voilà. Il y a bien deux critères, donc il y a le blanc et la lumière. Alors,
ci sono due critères, donnée souvent, il bianco e il brillare.
L'image qui est donnée souvent, c'est le cristal. Ou l'ivoire, voilà ce que le visage doit traduire.
Le immagini che vengono date sono quella del cristallo e quella dell'avorio. Ecco le immagini che vanno tradotte.
Et on voit bien que de ce point de vue-là, le visage doit répondre à un modèle.
E da questo punto di vista è chiaro che il volto debba rispondere ad un modello.
Ça c'est une deuxième grande période en quelque sorte.
È un secondo grande periodo.
Du rapport au cosmétique et du rapport à la beauté.
Periodo del rapporto con l'arte cosmetica e la bellezza.
Et puis il y a une troisième période qui est à mes yeux très intéressante.
E poi c'è un terzo periodo che secondo me è molto interessante.
Cette troisième période on la voit apparaître avec la Société des Lumières, c'est-à-dire le XVIIIe siècle.
È un periodo che vediamo apparire con i lumi nel XVIII secolo.
Où on voit commencer à apparaître une affirmation plus grande de l'individu.
Si comincia a vedere apparire un'affermazione più grande dell'individuo.
Il y a un exemple que je trouve personnellement magnifique qui se trouve dans les lettres de La Nouvelle Héloïse, le roman de Jean-Jacques Rousseau.
C'è un'affermazione molto bella che si trova nel romanzo di Rousseau, La Nouvelle Héloïse.
Voilà. Où on voit cette scène étonnante où Saint-Preux, qui est amoureux de Julie,
in questa scena sorprendente c'è Saint-Preux, il personaggio innamorato di Julie,
demande à Julie que celle-ci lui envoie un portrait.
Chiede a Julie che gli mandi un ritratto. Voilà.
Alors Julie lui envoie un portrait, Saint-Preux le reçoit, elle s'adresse à un peintre qui l'a peint, Saint-Preux le reçoit et il réagit.
Quindi la Julie va da un pittore, si fa fare questo ritratto, Saint-Preux lo riceve, voilà, e reagisce.
Ed ecco, et que dit Saint-Preux? Bah, il dit le peintre,
ecco, effectivement. Cosa dice Saint-Preux? Il pittore, in effetti.
Le peintre, effectivement, il a traduit ton visage.
Il pittore, in effetti, ha tradotto il tuo volto.
Mais je suis déçu pour trois raisons.
Ma sono deluso per tre ragioni.
La première, c'est que il ne peut pas représenter ton mouvement.
La prima è che non può rappresentare il tuo movimento.
La deuxième, c'est qu'il a cherché à obéir à un modèle qui est celui de la symétrie.
La seconda è che ha cercato di obbedire ad un modello che è quello della simmetria.
Or, c'est pas forcément le tien de modèle.
Che non è per forza il mio modello.
Et la troisième, c'est qu'il a négligé des aspects qui sont les tiens et qui sont, par exemple, la petite cicatrice au-dessus de la lèvre.
E il terzo è che ha dimenticato alcuni aspetti che sono tuoi, come la piccola cicatrice sopra il labbro.
Ton grain de beauté qui se trouve sur la joue.
Il tuo neo sulla guancia.
Ou, par exemple, la dissymétrie de ton menton.
La dissymétrie del tuo mento.
Alors comment se pose précisément à partir de là la question de la beauté?
Come si pone a partire da simili affermazioni la questione della bellezza?
Eh bien Saint-Preux dit il n'a pas réussi à représenter ta singularité, ce qui n'appartient qu'à toi.
Saint-Preux dice non è riuscito a rappresentare la tua singolarità, a rappresentarti nella tua singolarità, a rappresentare ciò che non appartiene che a te.
Or, c'est précisément pour cette raison que je suis amoureux de toi et que je t'aime.
Invece è proprio per questa ragione che sono innamorato di te e che ti amo.
Et donc tu es une beauté, mais c'est une beauté qui ne ressemble à nulle autre.
Ma una bellezza che non somiglia a nessun'altra.
Et on voit que pour la première fois au XVIIIe siècle,
commence à exister. Per la prima volta nel XVIII secolo comincia, voilà, ad esistere.
Des beautés qui n'obéissent pas au modèle collectif.
Delle bellezze che non obbediscono al modello collettivo.
Mais qui renvoient à des affirmations singulières.
Ma che rimandano a delle affermazioni singolari e questa è una grande invenzione.
C'est une immense invention et on voit à ce moment-là que cette invention elle se traduit dans le cosmétique.
E vediamo come in questo momento che questa invenzione si traduce nella cosmetica.
Elle se traduit dans le cosmétique parce que les marchands commencent à faire des publicités en disant vous avez le choix sur plusieurs couleurs.
Perché i mercanti cominciano a fare delle pubblicità in cui mostrano che c'è scelta tra vari colori.
Vous pouvez du coup composer des couleurs de votre propre teint qui correspondent à ce moment-là à quelque chose qui est individuel.
Potete comporre i colori per il vostro volto che corrispondono quindi a qualcosa di individuale.
Je pense que c'est un grand mouvement, un grand moment dans l'histoire de la beauté que ce moment du XVIIIe siècle.
E direi che quindi è un grande momento questo, che un grande momento nella storia della bellezza, questo del XVIII secolo.
C'est pas d'ailleurs, c'est pas la seule originalité du XVIIIe siècle. Vous qui êtes philosophe, vous le savez très bien.
Non è poi una grande originalità del XVIII secolo.
Il y a ben d'autres raisons qui font que le XVIIIe siècle est original. Je ne veux pas rentrer dans les détails.
Ci sono ben altre ragioni di originalità del XVIII secolo.
En particulier, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé personnellement, mais qui n'est pas dans le sujet, c'est la sensibilité. Le XVIIIe siècle invente quelque chose qui est de l'ordre.
In particolare c'è un elemento che ha interessato molto, da molto vicino alle mie ricerche, anche se oggi ci riguarda meno, che è il problema della sensibilità, la sensibilità che appare nel XVIII secolo.
Alors, en revanche, si on continue de raisonner sur la question de l'individualité,
Invece, se si, da un altro canto, se si continua a riflettere sulla questione dell'individuo,
on se rend compte qu'il y a un autre moment qui est très important. Je reste toujours dans ce troisième moment.
E ci rendiamo conto che c'è un altro momento in questo terzo periodo che corrisponde ad un grande momento.
Qui est celui de la société du 19e siècle.
Che è quello della società del XIX secolo.
Parce que cette société du 19e siècle commence à dire, mais nous sommes libres. Nous pouvons décider de nous-mêmes. Nous pouvons décider de la manière dont nous apparaissons.
Perché questa società del XIX secolo ci dice che possiamo essere liberi, che possiamo decidere noi del modo in cui vogliamo apparire.
Il y a des textes magnifiques de ce point de vue-là au XIXe siècle qui consistent à dire nous sommes responsables
de notre
propre beauté. Ci sono
testi magnifici del XIX secolo che ci dicono che siamo responsabili della nostra bellezza.
Et je pense à un texte de Madame de Girardin.
Pensa ad un testo di Madame de Girardin.
Madame de Girardin, qui est l'épouse du propriétaire d'un journal qui s'appelle La Mode.
Madame de Girardin, qui est la sposa del proprietario del giornale La Mode.
Voilà, La Mode. Et Girardin est propriétaire de plusieurs journaux, d'ailleurs.
Madame de Girardin, qui est proprietario di numerosi giornali, voilà. Tra l'altro.
Et dans ce périodique La Mode, en 1840, Madame de Girardin.
Nel 1840, in questo giornale, Madame de Girardin
fait un texte où elle inverse complètement les positions du Moyen Âge.
Scrive un testo in cui rovescia totalmente le posizioni del Medioevo.
Alors, je rappelle, les positions du Moyen Âge, ce sont les suivantes. Il y a une beauté naturelle et il y a une beauté artificielle.
Le posizioni del Medioevo, le ricordiamo, sono che c'è una bellezza naturale,
voilà,
e una bellezza artificiale.
Ça, ce sont les positions du Moyen Âge. Et les auteurs du Moyen Âge ont tendance à dire la seule beauté valable, c'est la beauté naturelle. Vous devez obéir à Dieu.
Gli autori del Medioevo tendono a considerare che l'unica bellezza valida sia quella naturale, perché dovete obbedire a Dio.
Vous ne devez pas trahir ce que Dieu a fait de vous.
Non dovete tradire ciò che Dio ha fatto di voi.
Or que dit Madame de Girardin? Madame de Girardin dit l'inverse. Elle dit nous vivons dans des sociétés qui sont des sociétés portant des normes.
Invece Madame de Girardin dice il contrario. Viviamo in società che portano delle norme.
Et Madame de Girardin va dire oui. Il existe une beauté naturelle, mais il existe aussi une beauté sociale.
Sì, esiste una bellezza naturale, ma esiste anche una bellezza sociale.
Et nous devons, dit-elle, obéir à la beauté sociale.
E dobbiamo, dice lei, obbedire alla bellezza sociale.
Donc nous devons bien sûr construire notre visage.
Dobbiamo ovviamente costruire il nostro volto.
Nous devons artificialiser notre visage.
Dobbiamo artificializzare il nostro volto.
Nous devons recourir à la technique pour améliorer notre visage.
Dobbiamo ricorrere alla tecnica per migliorare il nostro volto.
Et dans cette beauté sociale, à travers la technique, qu'est-ce que nous devons affirmer?
E in questa bellezza sociale, attraverso la tecnica, che cosa dobbiamo affermare?
Nous devons affirmer notre personnalité. Voilà ce que dit Madame de Girardin.
Dobbiamo affermare la nostra personalità.
Et je dirais mieux, lorsque vous lisez un auteur comme Baudelaire en 1859,
dirò
dans
di
un
più,
texte
quando
magnifique,
leggete Baudelaire nel 1859,
dans un texte magnifique qui s'appelle Le Maquillage,
il suo testo bellissimo sul trucco,
Baudelaire va employer une référence qui nous concerne directement dans le colloque d'aujourd'hui.
Baudelaire userà un riferimento che ci riguarda direttamente nel festival di oggi.
Lorsqu'il va dire notre visage, c'est le lieu de l'art.
Quando dice il nostro volto è il luogo dell'arte.
C'est le lieu où nous devons artificialiser notre apparence.
Il luogo in cui dobbiamo artificializzare la nostra apparenza.
C'est le lieu où nous devons porter au maximum notre propre individualité.
Il luogo in cui dobbiamo portare al massimo, spingere al massimo la nostra individualità.
En choisissant ce qui nous correspond au sens le plus étroit du terme.
Scegliendo ciò che ci corrisponde nel senso più stretto del termine.
Et à partir de textes comme ceux de Baudelaire, je trouve que nous entrons dans le monde contemporain.
E a partire da testi come quello di Baudelaire, trovo che entriamo nel mondo contemporaneo.
Mais ce monde contemporain, je terminerai là-dessus. Ce monde contemporain est plus compliqué qu'on ne le croit.
Un mondo contemporaneo che però è più complesso di ciò che si crede.
Pourquoi est-il plus compliqué? Parce que évidemment, il ne peut absolument pas échapper à des normes collectives.
È un mondo più complesso perché non può sfuggire totalmente alle norme collettive.
Donc on voit très bien aujourd'hui comment se situe deux dynamiques qui sont dans une certaine mesure contradictoires.
Vediamo quindi due dinamiche che sono in un certo senso contraddittorie.
Dans un sens, pousser au maximum ce qui caractérise notre singularité.
Da un lato si tratta di spingere al massimo ciò che caratterizza la nostra individualità.
Et en même temps, obéir incontournablement a des normes qui sont collectives.
Et al contempo si tratta di obbedire innegabilmente a delle norme collettive.
Et parmi ces normes collectives, il y en a une qui est très forte aujourd'hui.
Tra queste norme collettive ce n'è almeno una che è molto forte oggi.
Qui est celle de la minceur.
Quella della magrezza.
Et je pense qu'il faut rester un instant sur cette question de la minceur.
E credo che ci si debba soffermare un attimo su questa questione della magrezza.
Il faut rester un instant parce que on a tendance à penser généralement que la minceur est exclusivement une norme esthétique.
Si considera spesso che si tratti semplicemente di una norma estetica.
Or je pense que ce qui est intéressant dans cette question, c'est que la minceur, c'est aussi une norme que je qualifierais personnellement de sociale, voire économique.
Invece la magrezza è anche una norma che personalmente io qualificherei di sociale o addirittura economica.
Dans la mesure où nos sociétés qui sont des sociétés de la relation, qui sont des sociétés de l'échange.
In quanto le nostre società che sono società della relazione, società dello scambio.
Qui sont des sociétés aussi techniques.
Qu'est-ce qu'elles exigent? Società tecniche, che cosa ci chiedono?
Elles exigent beaucoup plus qu'auparavant que les corps soient légers.
Ci chiedono molto più di prima che i corpi siano leggeri.
Que les corps soient mobiles.
Che siano mobili.
Que les corps soient sujets au changement.
Che siano soggetti al cambiamento.
Que les corps soient sujets à l'adaptabilité.
Che siano capaci di adattamento.
Et tout ce qui est de l'ordre de la lourdeur.
E tutto ciò che riguarda la pesantezza
crea du retard,
crea una forma di ritardo,
crea de l'inadaptation,
di inadeguatezza,
inadéquation, voilà. Et on voit bien qu'à travers cela, la minceur a une exigence qui déborde largement la question esthétique.
E la magrezza in questo senso ha una dimensione che supera ampiamente la dimensione estetica.
Et pour ne prendre que cet exemple, une des contradictions d'aujourd'hui, c'est d'une part affirmer au plus loin sa propre personne, et d'autre part, obéir au plus près aux normes qui sont des normes collectives.
Et quindi per riassumere la complessità della situazione contemporanea, si tratta da un lato di avvicinarsi il più possibile ad una bellezza individuale, dall'altro di sposare le norme collettive.
Voilà. À votre micro. Allez-y. Ça va?
Oui.
Oh, très bien. Alors, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Pour rejoindre précisément les questions d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'art. Je pense que les personnes qui parviennent à choisir, à atteindre au mieux la situation qui consiste à coïncider.
Tornando alle questioni che ci riguardano oggi, le questioni dell'arte, credo che le persone che provano più di tutto a far coincidere.
À coïncider avec une démarche artistique. Et une démarche de présentation de soi.
A far coincidere il lavoro di presentazione di sé e una forma di lavoro artistico.
Ce sont les personnes, et c'est pas fréquent, ce sont les personnes qui parviennent au mieux, à la fois.
Sono le persone che riescono meglio, al contempo, ad affermare.
À affirmer leur propre personnalité.
Affermare la loro personalità.
En fusionnant cette personnalité.
Fondendo questa personalità.
Aux normes qui sont les normes collectives de nos sociétés.
Con le norme che sono le norme collettive delle nostre società.
C'est très rare, mais on voit à travers cela effectivement émerger quelque chose qui est de l'ordre de l'affirmation artistique.
È rarissimo, ma si vede in questo senso apparire qualcosa che è dell'ordine dell'affermazione artistica.
Bon, voilà ce que je veux dire, voilà l'intervention que je ferai cet après-midi à Sassuolo.
Ecco
merci beaucoup.
Un anticipo sull'intervento che farò oggi pomeriggio a Sassuolo.
Il y a peut-être des questions, je sais pas. D'accord, très bien. Merci.
Se non ho capito male, in effetti ci avviamo nei confronti di una bellezza individuale.
Yes.
Quella bellezza collettiva non esiste più.
Sì.
Per esempio, quella bellezza che consentiva a Leon Battista Alberti di dire la bellezza salverà il mondo. Quella bellezza lì oramai non c'è più, perché lui, Leon Battista Alberti, ripeto una cosa che tutti sanno, era ossessionato dal fatto che potessero arrivare nuovi barbari a distruggere le cose belle e si addormentava a Fiesole pensando che se le cose sono veramente belle anche la mano del barbaro si ferma e non le tocca. Questo concetto generale si è frantumato. E che cosa succede, le domando, nel momento in cui la manipolazione viene smascherata? Quell'effetto individuale che si ottiene non diventa poi qualcosa che si esaurisce e si perde? Grazie.
Alors, la dernière phrase, c'était quoi?
Lorsqu'on se rend compte de l'artifice, est-ce oui. que l'effet de l'artifice individuel, est-ce que l'effet disparaît?
C'est ça, c'est ça. Oui, alors, je vous remercie pour votre question. Je crois effectivement que ce qui est très original aujourd'hui, c'est le fait que le recours à l'artifice doit à la fois permettre l'affirmation individuelle et doit du coup permettre aussi, s'il y a affirmation individuelle, que l'artifice s'efface. Bon. Mais ce que je continue de penser néanmoins, une fois que nous avons dit cela, et sur lequel nous sommes, je l'espère, d'accord, une fois que nous avons dit cela, ce que je continue de penser, c'est qu'on n'échappe pas à des normes collectives. Par exemple, la jeunesse. On n'échappe pas à l'idée que la beauté passe par quelque chose qui est dans la jeunesse. On n'échappe pas non plus aujourd'hui à l'idée selon laquelle la beauté passe par quelque chose qui est dans l'ordre de la minceur.
Riprendendo su queste norme collettive, soffermiamoci ad esempio su quella della giovane, dell'importanza della giovinezza. L'importanza della giovinezza che viene associata anch'essa a questo ideale di magrezza.
De même, je pense qu'on n'échappe pas aujourd'hui à une idée très originale qui consiste à penser que la beauté.
Non sfuggiamo oggi ad un'idea molto originale che consiste nel pensare che la bellezza
ne peut pas se passer de mouvement.
Non possa fare a meno del movimento.
Voyez, la beauté classique, même encore au début du 19e siècle, ce
ancora
sont des beautés statiques.
Del XIX secolo, la bellezza classica è una bellezza statica.
Alors que même dans les images de mode, c'était des images très statiques.
Anche nelle immagini di moda era una bellezza molto statica.
Alors que les images de mode aujourd'hui,
mentre le immagini di moda oggi sono immagini dynamiques.
Donc on voit bien, voyez, on voit bien qu'il y a plusieurs critères qui sont des critères collectifs.
Ci sono diversi criteri, diversi livelli di criteri che sono criteri collettivi.
Et en même temps d'ailleurs dans ces critères collectifs, il y a celui de l'affirmation individuelle.
E in effetti tra questi criteri collettivi c'è quello dell'affermazione individuale.
Donc moi je qualifierais la question de la beauté aujourd'hui comme étant un lieu de défi.
Quindi qualificherei il problema della bellezza come un luogo di sfide.
Voilà, c'est un défi qui consiste à essayer de concilier un certain nombre de dynamiques qui ne sont pas forcément homogènes les unes avec les autres.
Una sfida che consiste nel conciliare diverse dinamiche che non sono per forza omogenee le une con le altre.
Et donc c'est bien un défi. D'ailleurs, je me rappelle, moi j'avais écrit en 2012, je crois. J'avais écrit un livre sur la silhouette.
Quindi è proprio una sfida. E ricordo nel 2012 avevo scritto un libro sulla silhouette.
Et j'avais mis un sous-titre en disant Naissance d'un défi.
E come sottotitolo avevo messo Nascita di una sfida.
Voilà. Bien sûr, mais en même temps, vous voyez, par exemple,
certo,
l'image...
Certo, è limitato,
oui, bien sûr,
in cui possiamo cogliere questa
mais en même temps, l'image de la jeunesse, c'est extrêmement intéressant comme question, parce que l'image de la jeunesse, elle renvoie aujourd'hui à une idée selon laquelle il faut entretenir en permanence, malgré l'avancée de l'âge, l'image de la jeunesse.
L'immagine della giovinezza è associata a un'idea secondo la quale bisogna provare a mantenere, anche con l'avanzare dell'età, questa giovinezza.
L'idea fondamentale è di montrer che le temps ne passe pas, che le temps ne mord pas, si vous voulez.
L'idea fondamentale che bisogna trasmettere è che il tempo non passa, il tempo voilà. Non morde.
Oui, morde le visage. Ouais.
Collegato a questo, quindi, che cosa pensa della chirurgia estetica? Chirurgia estetica, perché oui. Sempre oui. Più donne ricorrono a oui. Questo artificio.
Oui. Alors, la chirurgia estetica c'est un problème qui est effectivement très actuel.
La chirurgia estetica è un problema che effettivamente è molto attuale.
Et la chirurgia estetica aujourd'hui, il me semble, hein, elle a deux originalités.
Direi che la chirurgia estetica ha due originalità.
Une originalité qu'elle n'avait pas lorsqu'elle a commencé à être pratiquée avant la guerre de 14, à la fin du 19e siècle.
Due originalità che non aveva quando è nata, dopo la prima guerra mondiale, alla fine del XIX secolo.
J'ai l'impression que il y a trois périodes de la chirurgie esthétique.
Direi che ci sono tre periodi della chirurgia estetica.
Il y a une période qui est celle de la fin du 19e siècle.
C'è un periodo che va dalla fine del XIX secolo.
Jusque dans les années 40.
Fino agli anni 40.
Et qui consistait à corriger ce qui était perçu comme un défaut du visage.
Quella è una chirurgia che prova a correggere ciò che viene colto.
C'était corrigé, c'était corrigé.
Un difetto del volto.
Corriger la forme du nez, corriger le bec de lièvre, etc. C'était une pratique correctrice.
Era una pratica correttiva.
Il y a une deuxième période qui apparaît, à mon avis, après la Deuxième Guerre mondiale.
C'è un secondo periodo che appare, secondo me, dopo la Seconda Guerra mondiale.
Et qui est une période qui consiste à essayer d'épouser des normes esthétiques.
È un periodo, questo secondo periodo è un periodo in cui si tratta di sposare alcune norme estetiche.
Par exemple, c'est le lifting, c'est le fait d'avoir un visage
lifting,
qui a une certaine cohérence.
La ricerca di una forma di coerenza nel volto.
Et finalement, ce que l'on pourrait critiquer sur cette deuxième période,
ciò che si potrebbe criticare in questo secondo periodo,
c'est que les chirurgiens esthétiques essayaient de répondre à ce que j'appellerais moi un modèle standard.
E che il chirurgo estetico prova a rispondere a ciò che chiamerai un modello standard.
Et puis il y a une troisième période de la chirurgie esthétique.
C'è poi un terzo periodo della chirurgia estetica.
Alors, il y a une troisième période qui est compliquée et qui a, à mon sens, deux versants.
È un terzo periodo che è complesso e che ha, secondo me, due versanti.
Le premier versant, c'est le visage.
Il primo versante è il volto.
Et on voit bien que lorsqu'on lit les textes des chirurgiens esthétiques,
lo vediamo leggendo i testi di chirurgia estetica.
Sur le visage, à partir des années 70-80,
sul volto a partire dagli anni 70-80,
ils sont entrés dans une exigence qui jusque-là n'existait pas.
Sono entrati, hanno raggiunto un livello di esigenza che fin qui non esisteva.
Voilà. Et cette exigence consiste à essayer de retrouver.
L'esigenza consiste nel provare a ritrovare.
Dans le visage de quelqu'un.
A ritrovare nel volto di qualcuno.
Ce qui corresponderait au maximum à sa singularité. On retrouve le problème de l'individu.
Ciò che corrisponde al massimo alla sua singolarità.
Trouver quelque chose qui soit l'expression individuelle de quelqu'un.
Si tratta quindi di trovare ciò che permette l'espressione individuale della
voilà.
persona.
Et je suis très frappé par le texte de Maurice Mimoun, qui est un chirurgien français.
Sono colpito dal testo di Maurice Mimoun,
il dit cette phrase qui est étonnante. Il dit: je suis chirurgien de l'impalpable.
Dice: sono chirurgo dell'impalpabile.
Je dois arriver à recréer quelque chose dont je n'ai pas le modèle. Il faut que j'arrive à inventer.
Devo riuscire a creare qualcosa di voilà. cui non c'è modello.
C'est très difficile.
C'è una forma di invenzione.
À mon avis, c'est absolument passionnant sur la question de l'individualisation.
Mi sembra un fronte appassionante sulla questione dell'individualizzazione.
Et le deuxième versant de la chirurgie esthétique aujourd'hui?
Il secondo versante della chirurgia estetica oggi?
C'est qu'elle s'adresse à une partie du corps qui n'était pas jusque-là concernée par elle.
E che comincia ad occuparsi di una parte del corpo che non era fin qui, che non la riguardava fin qui.
Et qui est précisément la question de la silhouette.
E che è precisamente la questione della silhouette.
C'est-à-dire arriver à intervenir sur les hanches, arriver à intervenir sur les seins, sur la poitrine,
sulle anche,
sur le dessin du corps.
Sul petto,
ça c'est très original.
Seno, con una specie quindi di lavoro sul disegno del corpo.
C'est si original que lorsqu'on consulte les enquêtes sur la chirurgie esthétique.
È così originale che quando si consultano le inchieste sulla chirurgia estetica,
on se rend compte que la pratique dominante aujourd'hui,
ci si rende conto che la pratica dominante oggi,
c'est la pratique qui porte sur le dessin du corps.
È la pratica che porta proprio sul disegno del corpo.
Alors, il y a une deuxième indication des enquêtes.
Un secondo elemento che viene indicato da queste inchieste,
c'est qu'elles montrent que finalement, contrairement à ce que l'on peut imaginer spontanément,
e che mostrano che in fondo, contrariamente a ciò che si potrebbe spontaneamente immaginare,
la chirurgie esthétique ne concerne pas un nombre considérable de patients.
La chirurgia estetica non riguarda un numero considerevole di pazienti.
Ça ne dépasse pas les 10%.
Non supera il 10%.
Et même au début des années 2000, c'était encore 6%.
E ancora all'inizio degli anni 2000.
Mais c'est vrai que ça monte. Qu'est-ce qui se passe?
Non, questo è solo in mute.
Ah, muto. Ah oui, il parle pas. D'accord.
Riguarda solo il 6% dei pazienti.
Les deux trois dernières phrases sont pas marquées.
Oui, donc
les deux trois dernières phrases, d'accord. Ouais, très bien. Alors, je disais que la deuxième caractéristique.
Dicevo che la seconda caratteristica di questa chirurgia estetica dagli anni 70-80 ad oggi.
De la chirurgie esthétique aujourd'hui, c'est que, au-delà du visage, elle s'adresse à l'ensemble du corps.
Et che oltre al volto si interessa all'insieme del corpo.
Ensemble qui jusque-là n'était pas concerné par elle.
Insieme che non era fino ad ora del suo campo.
Et on voit bien lorsqu'on lit les enquêtes.
E lo vediamo quando si leggono le inchieste.
Que aujourd'hui, ce qui domine dans les pratiques de la chirurgie esthétique.
Che oggi ciò che domina in chirurgia estetica.
Ce sont celles qui s'adressent à l'ensemble du corps.
Sono quelle che mirano proprio l'insieme del corpo, del disegno.
C'est très fort aux États-Unis. Considérable aux États-Unis.
È molto forte negli Stati Uniti.
Un peu moins dans les pays européens.
Un po' meno nei paesi europei.
Ça, c'est vraiment le premier constat des enquêtes. Le deuxième constat des enquêtes, il faut jamais l'oublier, c'est que la chirurgie esthétique ne concerne pas un nombre de patients considérable.
Il secondo elemento interessante è che questa chirurgia estetica non riguarda un numero considerevole di pazienti.
Au début des années 2000, elle concernait environ 6% des personnes.
All'inizio degli anni 2000 riguardava più o meno il 6% delle persone.
Et aujourd'hui, elle atteint modestement les 10%.
Oggi tocca modestamente il 10%.
Avec une remarque supplémentaire quand même.
Con una nota a margine.
C'est que les hommes sont progressivement plus concernés.
Et que la chirurgie esthétique qui ne l'était. Cominciano a essere più soggetti a chirurgia estetica.
Alors, reste qu'il y a une remarque supplémentaire à faire, c'est que aujourd'hui on assiste à des pratiques qui ne sont plus des pratiques sanglantes.
Oggi assistiamo a delle pratiche che non sono più pratiche sanguinose.
La peau, etc. C'est pas le botox, vous voyez, il y a un certain nombre d'injections.
Ci sono una serie di iniezioni che permettono.
Qui permettent de transformer les lignes du visage.
Di trasformare le linee del volto.
Sans recourir à la chirurgie.
Senza ricorrere alla chirurgia.
Ce qui est totalement nouveau.
Che è una profonda novità.
Voilà.
Professore, buongiorno.
Le
chiedo qualcosa sul rapporto fra la cosmetica, compresa la chirurgia estetica, e l'esercizio del potere oggi, perché sempre più politici, ma anche magnati della finanza, ricorrono ad una cura estrema del proprio look. Penso a politico italiano, il presidente Berlusconi o Trump negli Stati Uniti. Macron forse, è diventato uno strumento di esercizio del potere?
Oui, je pense que c'est votre question est très importante.
È una domanda molto importante.
Je crois pour redire ce que je disais tout à l'heure, que nous sommes entrés dans.
Dicevo riprendendo ciò che dicevamo prima che siamo entrati.
Dans des sociétés du tertiaire.
In società del terzo settore.
C'est-à-dire des sociétés qui sont centrées essentiellement sur l'échange, sur la relation au public.
Società incentrate sullo scambio, sulla relazione al
pubblico. Et donc sur ce que j'appellerais la présentation de soi.
Quindi su ciò che chiamerei la presentazione del sé.
À quoi s'ajoute, pour reprendre votre exemple, si l'on entre dans la question du politique.
Se entriamo nella domanda del politico.
S'ajoute que aujourd'hui. On ne peut pas envisager la politique sans prendre en compte.
Dobbiamo aggiungere che oggi non si può pensare la politica senza prendere in considerazione il ruolo.
Le rôle des écrans.
Il ruolo degli schermi.
Le rôle de la télévision.
Il ruolo della televisione.
Le rôle au fond de l'image.
Il ruolo in fondo dell'immagine. E comprese i pannelli pubblicitari.
Et par là même, c'est tout à fait évident. Par là même. Que le travail sur le visage devient plus important qu'il ne l'était.
E quindi è ovvio che il lavoro sul volto diventa più importante di ciò che non.
Et il faut ajouter à cela, pour reprendre la fin de mon propos de tout à l'heure.
Per riprendere ciò che dicevo prima.
Que du coup, les hommes sont tout autant, sinon plus, concernés que les femmes.
Dobbiamo aggiungere che gli uomini sono che questo fenomeno riguarda gli uomini almeno tanto quanto le donne.
Donc votre question est à mes yeux très importante parce que.
Quindi è una domanda molto importante.
Pour reprendre votre terme, je pense qu'aujourd'hui le look est effectivement beaucoup plus important qu'il ne l'était.
Per riprendere il termine che ha usato nella domanda, il look è oggi molto più importante di quello che non fosse prima.
C'est bon? Allez-y.
Donc, Faccio due ultime domande. Una domanda sul rapporto tra l'interiorità, ci parlava prima degli umori, e l'esteriorità. Se lei ha studiato a lungo la questione degli umori e del ruolo che hanno giocato nello sviluppo anche delle arti mediche, in che modo si possono collegare queste due storie, quella della medicina, quella dell'interno e quella della cosmesi?
Votre question est absolument magnifique et fondamentale. Moi, je suis très sensible à ce type de question.
Parce qu'effectivement, una domanda fondamentale per me.
Fondamentale. Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut voir que la question de l'intérieur se pose autrement aujourd'hui.
La questione dell'interiore, dell'interno, si pone diversamente oggi.
Se pose autrement aujourd'hui. Alors, dans la tradition, l'intérieur, on en a parlé.
Nella tradizione, l'interno.
C'est la question des humeurs.
C'est la question degli umori, del colorito.
Avec des pratiques qui sont complètement étonnantes pour nous.
Il colorito che riflette gli umori, con pratiche che sono sorprendenti per noi.
Je pense par exemple que ce que craignaient les femmes, c'était d'avoir le visage rouge.
La cosa temuta dalle donne era di avere il volto rosso.
Et donc, dans le monde classique, au XVIIe siècle,
e quindi nel mondo classico,
vous aviez des pratiques qui sont sidérantes pour nous.
C'erano pratiche che sono spaventose per noi.
Qui étaient de deux ordres.
Di due tipi.
La première, c'était de séjourner les pieds dans le froid.
La prima era quella di rimanere a lungo con i piedi nel freddo.
Pour descendre la chaleur vers le bas.
Per far scendere il calore verso il basso.
Et la deuxième, c'était de recourir.
Era quella di ricorrere.
De recourir à des lavements.
Di ricorrere a dei lavaggi.
Des lavages intérieurs.
Des lavages interni.
Pour que les humeurs ne soient pas trop nombreuses et ne viennent pas aboutir au niveau du visage.
Per ridurre la quantità di umori e non permettere loro di arrivare fino al volto.
Donc ça c'est une première période où l'intérieur ce sont les humeurs.
Questo è un primo periodo in cui l'interno sono gli umori.
Je pense que il y a beaucoup de périodes, mais pour schématiser.
Direi che ci sono molti periodi, ma per schematizzare c'è un secondo periodo.
Il y a une deuxième période qui naît d'ailleurs avec le XVIIIe siècle.
Periodo che comincia appunto nel XVIII secolo.
Et qui consiste à prendre en compte non pas tant le problème des humeurs.
Un periodo che consiste a prendere in conto non tanto il problema degli umori.
Que le problème de la sensibilité.
Quanto il problema della sensibilità.
Qu'est-ce qu'on éprouve?
Che comment, cosa si sente?
Comment
che cosa
on
si
ressent
prova,
l'intérieur de soi?
Come si sente l'interno di sé?
Alors moi j'ai écrit un livre qui est sorti il y a deux ans, qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a passionné.
Ho scritto un libro due anni fa.
Que j'ai intitulé Le sentiment de soi.
Che ho intitolato Il sentimento di sé.
Histoire de la perception du corps.
Storia della percezione del corpo.
Et je trouve que aujourd'hui la question de la perception intérieure du corps.
Trovo che oggi la questione della percezione interna del corpo
est devenue très centrale.
Si è diventata molto centrale.
Parce qu'on voit bien que si on prend l'exemple de la beauté.
Perché si vede che prendendo l'esempio della bellezza.
Qu'est-ce que ça entraîne comme considération?
Che cosa implica come considerazione?
Ça entraîne le fait que l'idée de la beauté
implica che l'idea della bellezza
ne peut véritablement s'exprimer.
Non si possa esprimere
que si l'on éprouve son corps.
Non si possa esprimere che se si prova il
que
proprio
si
corpo.
Che si on ressent de la détente intérieure.
Se si prova una forma di
de la détente.
Di
je sais pas le mot.
Di alleggerimento interiore.
Alleggerimento, voilà. Si on ressent en quelque sorte une sorte de pacification intérieure.
Una forma di pacificazione interna.
Et là, on voit bien que les nouvelles pratiques esthétiques passent par la perception du corps.
E si vede in questo senso che le nuove pratiche estetiche passano attraverso la percezione
et
del
coup,
corpo.
Et vous voyez que la question de l'intérieur et de l'extérieur.
Vedete quindi che la questione dell'interno e dell'esterno
est au cœur des pratiques esthétiques.
È centrale nelle pratiche estetiche.
Mais elle se pose d'une façon nouvelle par rapport à la manière dont la tradition l'a posée.
Ma si pone in un modo nuovo rispetto alla questione tradizionale.
D'ailleurs, je pense, pour continuer une seconde, que
per continuare solo un attimo,
cette perception intérieure,
penso,
elle renvoie aussi à la question de l'identité.
Credo che questa percezione interna rimandi al senso dell'identità.
Et votre identité, vous essayez de l'exprimer à partir de la manière dont vous vous ressentez.
La vostra identità che provate a esprimere nel modo in cui vi sentite.
Du coup, l'objet qui consiste à se ressentir, à s'écouter, quindi, ça devient un objet très important.
Quindi il fatto di provare a sentirsi, il tentativo di ascoltarsi diventa un oggetto di riflessione
voilà,
molto importante.
Absolument. D'où votre question est vraiment très importante. Merci. Voilà. On s'en tient là? Parfait. Merci infiniment en tout cas.
Grazie infinite. Merci.